Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui, nous arrivons à l'étude numéro 6 concernant le fondement de la rédemption. Une série importante. Et comment ? Le fondement de la rédemption. Étude numéro 6, le titre sera Babel, jugement sur l'humanité. Jugement sur l'humanité. Le jugement de Babel pèse lourdement sur l'humanité, marquant toute histoire culturelle et spirituelle. En vain, le monde tente de le surmonter par ses propres forces. Premièrement, nous avons la dispersion de l'humanité dans l'histoire des temps, primitifs. C'était des temps d'autrefois. Et selon l'Écriture sainte, trois motifs ont présidé à l'érection de la tour de Babel. C'était l'orgueil, l'ambition et la détermination de demeurer ensemble. Ça n'a pas changé. Il n'y a qu'à voir chez les Émirats les tours fabuleuses. Mais ils verront le revers de la médaille plus vite que l'on le pense. Tout a une fin. Dieu, il a le temps devant lui. Le jugement divin est donc triple. L'orgueil qui s'élève fut jugé par la descente du Seigneur. Genèse chapitre 11, versets 4 et 5. La détermination de rester ensemble par la dispersion et la division, l'ambition par l'opprobre, la ville par laquelle il voulait se faire un nom, verset 4, est devenue précisément par son nom un symbole de ruine. Babel, c'est la cité de confusion. Elle est bien la preuve de l'importance du pécheur et de l'inutilité de toute rébellion contre Dieu. Deuxièmement, nous avons la confusion du langage, une confusion de pensée. Pardon. La confusion du langage à Babel est bien plus qu'une simple confusion de vocabulaire, de grammaire, de prononciation ou de phraséologie. Quel qu'ait été le langage originel, que ce soit l'hébreu ou le syriaque, comme l'on suppose, et ont supposé les rabbins et les pères de l'Église, ou plutôt, ce qui semble être plus vraisemblable, aucune des anciennes langues connues de nous. Il est donc certain qu'une communauté de langage incluait une profonde uniformité de vie mentale. Le langage est la manifestation phonétique du mental. La partie mentale de toute l'humanité a donc dû, dans un sens spécial, avoir été uniforme. La confusion du langage à Babel fut donc principalement une confusion des conceptions mentales fondamentales de l'humanité. À la place de l'unité originelle, par un acte de puissance de Dieu agissant sur l'esprit humain, s'établit un clivage multiple dans la pensée, les sentiments, les projets ou idées, les idées des hommes, bien entendu, et leurs conceptions. Le langage originel dans lequel ou dans lequel Adam, au paradis, a nommé tous les animaux, selon la Genèse chapitre 2, verset 20, était donc, pour ainsi dire, comme un vaste miroir où la nature se reflétait fidèlement. Dieu a déduit l'eau, donc depuis longtemps. Oh oui, Dieu, il a le temps devant lui, comme je l'ai dit. Et Dieu a depuis lors brisé ce fameux miroir. Chaque peuple n'en a retenu que tel fragment plus ou moins large. Chaque peuple ne voit ainsi qu'un morceau du tout, mais jamais la totalité. C'est ce qui explique les divergences qui opposent les conceptions des nations en ce qui concerne la religion, la philosophie, l'art, les sciences et l'histoire, opposition d'où naissent souvent de mutuelles contradictions. Et tout cela entraîna nécessairement des conséquences ultérieures. La connaissance du monde étant perturbée, la connaissance de Dieu le fut également. Troisièmement, nous avons la dégénérescence, il faut bien le dire, de la foi et de la religion, ce qui nous arrive à tous aujourd'hui même. Au commencement de l'histoire humaine se trouve présente la foi dans le Dieu et un reconnu dans la nature. Notez Romains chapitre 1 versets 19 et 20. La conscience également, selon Romains chapitre 2 versets 12 à 15. Et l'histoire, Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, on peut bien le dire. C'est une histoire importante. Le paganisme est une perversion, on peut le dire, de cette fameuse foi antérieure. Car cette foi, elle était très minime. Et toute religion païenne, qui n'était pas minime du tout, a pour éléments fondamentaux une déformation de la révélation originelle, une mauvaise interprétation de la révélation naturelle. Notez Romains, chapitre 1, verset 23. Et également un obscur conflit de l'âme avec la révélation de la conscience. À travers la révélation universelle persiste néanmoins l'influence divine sur l'humanité. Dieu retient celle-ci tel un puissant aimant. Il n'est pas loin du tout de chacun de nous. Actes chapitre 17, verset 27. Voulant réveiller en eux le désir de le chercher. Et Dieu cherche les hommes comme une mère cherche le cœur de son enfant afin qu'il la cherche en retour, afin qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver. Et là, vous pouvez noter Actes chapitre 17, verset 27. Voyez-vous, l'effort religieux ou la recherche de Dieu, remarquablement développée même parmi les peuples les plus païens, ça, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Donc, la tragédie, c'est que Satan, le grand séducteur, a aiguillé cette recherche humaine dans une totale fausse direction, et de telle sorte que l'homme fuit, il s'en va, loin de Dieu, tout en le cherchant. L'homme poursuit la bénédiction, mais évite la présence de son Créateur. Il ne veut rien avoir à faire avec lui, et pourtant, il ne peut se résoudre de se couper totalement de lui. L'apôtre Paul attribue cette désharmonie et cette dégénérescence religieuse, tout simplement au manque de reconnaissance et à l'ingratitude. Bien qu'il sache qu'il y a un Dieu, les hommes ne l'ont pas glorifié comme tel et ne lui ont pas rendu grâce. Ils sont devenus vains dans leurs pensées et dans leur cœur insensé et obscur. Romains chapitre 1, verset 21. Certains éléments furent employés par l'action démoniaque, avez-vous compris? Et cela pour conduire à cette transposition des valeurs dans la vie religieuse. Le paganisme, dans son ensemble, ne repose pas seulement sur l'erreur et la tromperie, mais encore et en même temps sur une base spirite. Et c'est ainsi que les païens, sous l'influence des démons, sont devenus les créatures de leur Dieu. Dans sa religion, le païen exprime son impiété. Sa religion est le péché, transgression du premier commandement. Les divers dieux mis à la place de Yahvé l'Éternel, c'est la plus forte expression de l'opposition de l'homme contre Dieu et, sans oublier, contre lui-même, selon Karl Barth. Et pourtant, des myriades d'hommes suivent ce faux chemin qui draine l'humanité depuis des siècles. S'efforçant d'être sages, ils sont devenus fous. Romains chapitre 1, verset 22. Ainsi, le jugement sur Babel a eu des résultats immenses. La confusion de la pensée et des relations intellectuelles qui sont dues à la dispersion de l'humanité a eu pour conséquence la confusion religieuse, exactement comme aujourd'hui, de loin plus significative que la confusion du langage. Politiquement aussi, ces effets ont été des plus sérieux. Quatrièmement, nous avons la tension internationale. Depuis ce temps-là, l'histoire du monde est un conflit permanent, tel a été dicter l'aspect général de cette opposition réciproque dont la forme la plus significative est la guerre. C'est pour cette raison que les guerres et les bruits de guerre se perpétueront jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 6. Donc, là, on peut dire qu'il serait cependant erroné de considérer la dispersion à Babel comme étant l'origine de la formation des nations comme telle. C'est la séparation des nations en ce qui concerne l'esprit, la religion, la langue et la politique qui constitue le fruit réel de ce jugement divin. Il y aura des nations, cela jusque sur la nouvelle terre, selon Apocalypse chapitre 21 verset 24 et chapitre 22 verset 2, mais elles représenteront la diversité dans l'unité et formeront une réelle famille de peuples. Ainsi seulement s'explique la tension dramatique du monde entier, l'apparition de la chute des civilisations au sein du tourbillon des royaumes et des races. Cinquièmement, nous avons la rédemption, le but de l'histoire du salut. Je répète, cinquièmement, nous avons la rédemption. C'est le but de l'histoire du salut. La confusion du langage ne signifie pourtant pas que Dieu soit adversaire de toute union de la race humaine. Bien au contraire, la communion la plus étroite et la plus spirituelle est son véritable but pour l'humanité. Notez Michée, chapitre 4, versets 1 à 4. Mais il est lui-même le centre de l'unité, cette unité qu'il souhaite. Elle est en Christ, son Fils bien-aimé. Alléluia. Éphésiens, chapitre 1, verset 10, et Saint Jean, chapitre 10, verset 16, et vous pouvez ajouter le chapitre 17, verset 21 à 22. Désigné donc comme roi, selon le psaume chapitre 2, verset 6, et Zacharie, chapitre 14, verset 9. Donc, de son côté, l'homme a cherché à détrôner le Créateur afin de prendre lui-même, égoïstement comme toujours, le gouvernement en main. Il a dressé toute son énergie charnelle comme un bastion opposé à la poursuite de l'œuvre de la rédemption. Donc, il ne pouvait que s'écrouler, et ce qui aura bientôt lieu plus vite qu'on pense. Et c'est pourquoi le bras de Dieu se montra pour disperser, par la destruction de l'unité démoniaque, il faut bien le dire, car cette unité était démoniaque, sans compter qu'elle était charnelle. L'unité véritable, divine et spirituelle allait donc pouvoir s'effectuer. Un plein universalisme est le but final, le but de l'abrogation de l'universalisme premier. Et en cela, le jugement de Babel était lui-même une grâce. Et sixièmement, nous avons le triomphe final de Dieu. Je répète, sixièmement, nous avons le triomphe final de Dieu. L'humanité lutte avec persévérance contre le plan de Dieu. L'esprit de la Babel révoltée est vaincu et demeure actif tout au long des siècles. À la fin des temps, il semblera même avoir atteint son but lorsque l'Antéchrist parachèvera l'œuvre de Nimrod. Apocalypse chapitre 13, versets 7 et 8. Oui, en effet, l'histoire de la ville de Babylone trouve son modèle. Elle trouve son modèle, premièrement, dans la ville de Caïn, Genèse chapitre 4, verset 17, son symbole dans la tour de Babel, Genèse chapitre 11, son principal développement à travers Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2, versets 37 et 38, sa progression dans l'histoire mondiale, Daniel chapitre 2, verset 7, son accomplissement sous le règne de l'Antéchrist, Apocalypse 13, verset 17, sa fin par le triomphe du Christ, gloire à Dieu, Apocalypse chapitre 18 et 19. Après l'Antéchrist, Jésus-Christ en effet apparaîtra et gagnera la victoire, Apocalypse 19, versets 11 à 21, et l'épouse, Apocalypse 21, verset 9, la cité de Dieu qui descend des cieux, qui est la nouvelle Jérusalem, verset 10, triomphera de la prostituée, dernier assaut de Babylone contre les cieux. Apocalypse chapitre 14, verset 8 et le chapitre 17, verset 1 à 18. Chers amis, le jugement à Babel mettait fin à un certain sens à la forme originelle de la révélation. Un âge complètement nouveau allait commencer avec Abraham, qui est l'ancêtre d'Israël et le père de tous les croyants. Romains, chapitre 4, versets 11 et 12. La bénédiction que recevraient plus tard ceux d'entre les nations qui seraient sauvés était en réalité la bénédiction d'Abraham. Galates, chapitre 3, versets 9 et 14. L'Église de l'âge présent, Romains 15, verset 27, Éphésiens, chapitre 3, verset 6, on peut dire aussi Éphésiens, chapitre 2, verset 11 à 19, et noter Romains, chapitre 11, verset 24, le royaume de Dieu à venir, selon Luc, chapitre 1, verset 72 et 73, est la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, verset 10, et Hébreux 11, verset 16. Tout cela repose également sur la base des promesses faites à Abraham. Il y a beaucoup de citations bibliques, c'est important pour que vous puissiez constater que toutes ces études ne sont pas faites à la légère, mais faites dans la prière et guidées par le Saint-Esprit. C'est avec lui qu'a commencé, avec Dieu, la révélation actuelle du salut et de la rédemption. Tout ce qui précédait était introductoire et préparatoire. Abraham n'était pas le premier croyant, pas du tout. Abel, Enoch, Noé, Melchizedek, son contemporain, tous furent des très grands hommes de foi. Hébreux chapitre 11, verset 4 à 7, et notez la Genèse chapitre 14, verset 18. Et dans la foi d'Abraham, l'essentiel était la nature de sa foi plutôt que le seul fait de croire simplement. Il faut croire, mais ne jamais oublier d'avoir la foi de ses prédécesseurs. C'était en quelque sorte comme limité à eux-mêmes et à leur entourage immédiat. La foi d'Abraham, bien au contraire, elle a eu des effets d'une portée beaucoup plus lointaine. Sa signification s'étend à toute l'histoire du salut et à l'avenir entier. Abraham a saisi la promesse non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses descendants corporels et spirituels. Ainsi est-il devenu l'ancêtre de beaucoup. Ézéchiel 33, verset 24, il est devenu le père de tous les croyants, selon Romains chapitre 4, verset 11. Il fut comme la carrière et la pierre dont le peuple de Dieu fut extrait et taillé. Ésaïe, chapitre 51, verset 1 et 2. Il fut la sainte racine de l'olivier franc. Romains, chapitre 11, verset 16 à 24. Et il fut le premier vase de l'alliance préparatoire de cette révélation vétérotestamentaire qui, en un sens spécial, conduisait directement au Christ. Nous avons donc le point de départ, car par la rébellion de Babel, les énergies coalisées tentaient de s'opposer au Très-Haut. Il fallait que soit introduit un principe de séparation et de désunion afin de briser cette association perverse. Par la réunion de leur effort impie, ils voulaient conquérir le ciel en vain, et on le fait aujourd'hui avec les voyages extraterrestres. Dieu réagit en les dispersant afin d'ouvrir les cieux. C'est ce qu'il a fait par l'appel d'Abraham. Dans l'histoire du salut, cet appel est la contrepartie de la tour de Babel en même temps que sa conséquence nécessaire. Quel est le fondement? Premièrement, nous avons la liberté de Dieu. Que Dieu ait choisi Abraham plutôt qu'un autre croyant de son temps comme Melchizedek, Genèse chapitre 14, versets 18 et 20, c'est là le fruit de sa libre souveraineté. Seigneur et gouverneur de l'univers, il distribue comme il veut les figures de l'échiquier de l'histoire humaine. Romains chapitre 9, verset 20. Il est vrai qu'il n'impose pas la foi au croyant, ni l'incrédulité à l'incroyant. Il donne le libre choix, il laisse à chacun la liberté et l'autodétermination. Matthieu chapitre 23, verset 37 et Apocalypse chapitre 22, verset 17. Mais du milieu des méchants, il choisit tel méchant, par exemple le pharaon d'Égypte, selon Romains chapitre 9, verset 17, et cela afin de montrer en lui son pouvoir de jugement, tandis que du milieu des croyants, il choisit tel croyant afin d'en faire l'agent de quelque tâche spéciale dans l'accomplissement du salut. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11 et versets 29 et 30. C'est dans ce sens seulement que Abraham fut appelé et devint ainsi, pour ainsi dire, une figure officielle responsable de préparer la médiation du salut. Deuxièmement, nous avons la grâce de Dieu. Le choix d'Israël ne fut pas basé sur une quelconque supériorité de ce peuple. La méthode de Dieu est tout autre. Dieu se plaît à choisir les humbles et les insignifiants de ce monde. Notez Saint-Luc chapitre 1, verset 52, et la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. On ne saurait donc être surpris de voir Israël comparé à une épine. Exode chapitre 3, verset 2 et 3, ainsi que Michée chapitre 7, verset 4. Aucune importance numérique n'aurait pu influencer non plus le choix de Dieu, car sur ce plan, Israël était le moindre de tous les peuples. Deutéronome chapitre 7, verset 7. Pourquoi donc le choix de ce peuple si ce n'était à cause de l'humble apparence que l'Éternel veut donner, qu'il veut donner à la révélation divine? Il n'y a dans l'Ancien Testament aucune exaltation raciale du juif irrégénéré. On y trouve bien au contraire des paroles de jugement prononcées contre l'apostasie d'Israël. Dans le sens vétérotestamentaire, peuple choisi, selon 1 Chronique chapitre 16 verset 13 et Exode chapitre 19 verset 5, sans oublier Amos chapitre 3 verset 2, et vous pouvez ajouter Psaume 147 verset 19 et 20. Cela ne signifie donc aucunement que ce soit un peuple sélectionné et bon et parfait. Notez Ésaïe chapitre 1 verset 4 ainsi que Romains chapitre 2 verset 24, ni que ce soit un peuple prédestiné à être politiquement dominant jusqu'à soumettre le monde, mais simplement un peuple séparé. Un peuple séparé en vue du service de Dieu dans le cours du salut. Et c'est ici que le juif a failli de la plus terrible manière. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15 et 16. Le but du plan de Dieu n'était pas la glorification du Juif, Ézéchiel 36, versets 22 et 23, et notez encore le verset 32, mais c'était la mise en lumière de la gloire, de la grâce et de la sainteté de celui qui est à la fois Dieu des Juifs et le Dieu des non-Juifs. Psaume 115, verset 1 et Ésaïe, chapitre 44, verset 23. Et notez encore Romains, chapitre 3, verset 29. Troisièmement, nous avons la gloire de Dieu. En fait, l'ensemble de l'Écriture sainte montre le Juif plus d'une fois dépassé par le non-Juif pour ce qui est de la réceptivité spirituelle en foi par le centurion romain à Capernaum, Matthieu chapitre 8 verset 10, en amour par le samaritain compatissant, Saint-Luc chapitre 10, verset 25 à 32, et le chapitre 17, verset 16, en sacrifice consenti à la recherche de la véritable sagesse, notez et rappelez-vous la reine d'Éthiopie, Saint Matthieu chapitre 12, verset 42, en repentance, par le peuple de Ninive, des Assyriens, chapitre 12 de Saint Matthieu, verset 41. Il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, et cela a été dit par Jésus-Christ. Or cependant, voyez-vous, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien, Saint Luc, chapitre 4, versets 25 et 27. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et subsisteraient ces villes-là encore aujourd'hui, Saint Matthieu, chapitre 11, versets 21 et 23, en Isaïe, qui veut dire aussi Ésaïe, Dieu disait d'Israël, « Qui est aveugle sinon mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ?» Ésaïe, chapitre 42, verset 19. Si nous nous demandons pourquoi, en dépit de tout cela, Dieu fit ce choix précis. La réponse vient nette et lumineuse. C'est afin que nulle chair ne soit glorifiée devant lui, mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24, ainsi que 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 31. À résultat artistique égal, plus les moyens sont misérables, plus grand est l'honneur de l'artiste. Pour une même victoire, plus petite est l'armée, plus grande est la gloire du vainqueur. Voilà pourquoi au sein des soleils et des étoiles innombrables de l'univers, Dieu a choisi ce petit globe et sur lui cette petite terre de Canaan habitée par le plus petit de tous les peuples. Deutéronome chapitre 7 verset 7. Et voilà pourquoi en Israël, il a choisi le village de Bethléem, trop petit pour être reconnu entre les milliers de Juda. Michée, chapitre 5, verset 11. Et à Bethléem, une simple étable. Oh oui, de l'étable, il alla à la croix. Et Dieu a choisi toujours l'insignifiant pour être le principal témoin de la vie du Christ auprès d'Israël. Matthieu, le collecteur d'impôts, Matthieu chapitre 9, verset 9, est pour annoncer la première, on peut dire que le Christ était ressuscité. C'est lui qui a annoncé cela. Et Marie et Magdala, précisément, possédés du démon, selon saint Marc chapitre 16, verset 9, et saint Jean chapitre 20, verset 11 et 18, pour être le plus éminent des apôtres. Saint Paul, le plus grand de tous les pécheurs, selon 1 Timothée chapitre 1, verset 15, oui, on peut bien le dire, et le résultat de tout cela est la manifestation de la grandeur divine. Je vous demande pardon, je me suis trompé en vous disant une petite erreur, ce qui est interdit. C'était Marie de Magdala qui, elle et personne d'autre, la première à annoncer que Christ était ressuscité, elle qui avait été possédée du démon, rappelez-vous. Chers amis, quatrièmement, nous avons la sagesse de Dieu. Un autre motif divin caractérise la sagesse de Dieu quant à l'instruction de la race humaine. L'histoire d'Israël en tant que race réfractaire, acte 7, verset 51, devait enseigner à tous les peuples du monde, avec la crainte du péché, la gloire de la rédemption avec le sérieux des jugements répressifs, la profondeur de la grâce qui pardonne. Psaume 102, versets 14 à 16. L'histoire d'Israël, elle devient ainsi une leçon de choses sur la scène des affaires du monde, une leçon donnée afin que les nations de la terre puissent percevoir ce que sont le jugement et la grâce. Isaïe 52, qui veut dire Isaïe, 52, verset 10, et Ézéchiel, chapitre 39, verset 23 à 27. l'homme étant rendu stupide par son opposition à Dieu, il fallait un exemple clair et impressionnant. Cet exemple précis, la sagesse de Dieu, le requérait. C'est donc là une des raisons du choix d'Israël. Et cinquièmement, nous avons la justice de Dieu. N'oublions jamais cela. Car en tout cela, les voies de Dieu sont demeurées justes. Israël n'a aucunement reçu de préférence à ses plus hauts privilèges. Romains chapitre 9, versets 4 et 5, ainsi que le chapitre 3, versets 1 et 2, à ses plus hauts privilèges correspondent des responsabilités plus grandes encore. Les devoirs compensent les droits. La position comporte une obligation. Saint Luc 12, verset 48, et la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 17, « Et le péché n'a reçu chez aucun peuple un jugement aussi sévère que chez les Juifs. » Notez Deutéronome, chapitre 28, verset 64 à 67. « Chez eux, tout est porté au plus haut degré, tels que les privilèges et les jugements, tels que les bénédictions et les malédictions. Son choix est en lui-même la raison de cette sévérité tout à fait spéciale. Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Amos chapitre 3, verset 2. Et lorsque, au temps des grands jugements, Israël en appelle à sa position dans la grâce, voulant pour ainsi dire arracher des mains de Dieu le bâton qui le châtie et s'écrie « Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. » La réponse divine intervient d'une façon lapidaire. Israël a rejeté les biens. L'ennemi le poursuivra. Osée, chapitre 8, versets 2 et 3. Chers amis, voyez-vous le fait que Dieu ait maintenant limité sa révélation à un peuple ne signifie pas que Dieu ait coupé toute relation avec les nations mises de côté. Il leur reste un quintuple témoignage divin significatif, quoique moins direct. Premièrement, nous avons le langage symbolique de la nature. Depuis le commencement, les œuvres de la création ont manifesté la puissance et la divinité éternelle de Dieu. Romains chapitre 1, versets 19 à 21. Deuxièmement, nous avons le langage de la conscience. Oui, même les païens qui n'ont point la loi sont une loi pour eux-mêmes. L'œuvre de la loi étant écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage. Romains chapitre 2, versets 14 à 15. Troisième moment, nous avons le langage de la sagesse. Même dans le monde païen, il y a tant de pensées élevées et profondes que l'on ne peut l'expliquer sans recours à l'activité de la sagesse divine produisant un certain degré de connaissance dans l'esprit de l'homme en général. On peut citer ici des hommes comme Socrate, Platon, Lao Tse, Zarathoustra et beaucoup de poètes ou penseurs des nations. Les pères primitifs de l'Église, surtout Justin de Sichem, au IIe siècle, en étaient venus à parler du grain de blé de la Sainte Parole semée dans le monde des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Il faut ajouter que certains souverains moraux d'ordre général ont dû survivre parmi les peuples, et cela depuis la révélation originelle, et s'ajouter aux qualités morales qui sont le partage même de l'homme naturel. Quatrièmement, nous avons le langage des autorités établies. Les magistrats sont au service de Dieu, selon Romains chapitre 13, verset 4. L'ordre institué par Dieu lui-même existe dans l'histoire depuis l'alliance qui a été faite avec Noé, Genèse chapitre 9, verset 6. Sans l'autorité des gouvernements, la société serait rapidement submergée par le mal et tomberait dans un barbarisme moral et spirituel dans la plus effrénée des perversités. Par le droit, Dieu étant une main protectrice, il est derrière l'autorité, œuvrant par elle. Le gouvernement de la terre ou les gouvernements de la terre sont ses instruments. Et c'est pourquoi dans la parole de Dieu, la sagesse éternelle parle d'elle-même en ces termes. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Proverbe chapitre 8, versets 15 et 16. Et cinquièmement, nous avons le langage de l'histoire. Même après le choix d'Abraham et d'Israël, Dieu continue à diriger l'histoire des peuples. Il tourne les cœurs des rois comme des courants d'eau et il les dirige où il veut. Proverbe 21, verset 1. Il suscite, tel que dans Hadat d'Édon, 1 roi, chapitre 11, verset 14, raison de Damas, 1 roi, chapitre 11, verset 23, Tilgat Pilneser d'Assyrie, 1 chronique, chapitre 5, verset 26, et Cyrus de Perse, Esdras, chapitre 1, verset 1, il appelle ce dernier son oint, à qui il ouvre le chemin, chassant devant lui les nations en faveur d'Israël, son serviteur. Ésaïe 45, versets 1 à 7, et Jérémie, chapitre 51, verset 11. La mise de côté du monde non-juif ne fut donc pas du tout l'abandon de son histoire. Même en sa qualité de Dieu, d'Abraham et d'Israël, l'Éternel reste tout autant le Dieu des nations, Romains chapitre 3, verset 29. C'est l'histoire de la race humaine tout entière qui fut et qui demeure l'œuvre de Dieu, nous dit même Luther. Tout cela arrive afin que les hommes cherchent le Seigneur et s'efforcent de le trouver, fût-ce en tâtons. Actes chapitre 17, verset 27. Du point de vue du récit du salut, les nations sont individuellement des troupeaux, voir Saint Jean chapitre 10, verset 16. Donc, Ce sont des communautés voulues de Dieu en préparation pour l'Évangile, communautés qui doivent garantir la proclamation paisible du message du salut, le maintien de l'individu dans la décence, la morale et la justice civile. En un mot, l'histoire du monde est le support de l'histoire du salut. Non seulement la révélation a une histoire, mais l'histoire est une révélation. Ce n'est pas seulement une œuvre, mais une parole stimulante de Dieu. Et par l'histoire, Dieu se révélait tout en demeurant le Dieu caché. En ce qui concerne la révélation du salut, les gentils, qui veut dire les non-juifs, furent mis de côté. Et c'est là la question principale. Mais leur exclusion temporaire, vous avez bien entendu, leur exclusion temporaire, elle est limitée, elle était le chemin de leur réacceptation et de leur réintroduction. La Sainte Bible dit « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse chapitre 12, verset 3. Dès le début, la fin est mentionnée. La mise à part d'Abraham devait forcément ralentir le développement universel de l'histoire du salut, mais allait d'autre part la faciliter et l'amener d'autant plus sûrement à son but. C'est l'aspect universel qui était envisagé à travers le particulier, le tout à travers le détail, l'ensemble à travers l'unité. Limiter la révélation au début à Abraham seul était la manière divine de servir l'ultime universalité du salut. La restriction était là, mais avec pour objet sa propre suppression. Dieu, détournant son salut des nations, afin d'être d'autant plus sûr de leur proclamer à nouveau l'histoire du salut dans cette pleine acceptation des termes, n'indique pas un cercle limité à l'intérieur de l'histoire universelle, mais englobe et interprète toute l'histoire de l'humanité dans ses relations avec Dieu. La marche de l'Évangile à travers le monde est le thème propre de l'histoire du monde. C'est la signification de toute l'histoire. L'histoire du salut, au sens large, est une théologie de l'histoire du monde. Dieu lui-même en est le centre en sa qualité de Seigneur de toute l'histoire. Au milieu de l'histoire du monde commence une histoire particulière, celle de la révélation, en laquelle il se rend présent à l'homme. Dans la première, il travaille spécialement comme le Dieu caché, et dans la seconde, comme le Dieu qui se révèle. Mais les deux, l'histoire du monde et l'histoire de la révélation, ont Dieu lui-même pour centre commun. Vu sous cet angle-là, les deux appartiennent à l'histoire du salut. Et c'est ici le sens de l'âme de l'Ancien Testament, et c'est précisément pour cela qu'il est rempli de promesses de salut pour l'ensemble de la race humaine, spécialement en Ésaïe. De tous les livres des temps pré-chrétiens, l'Ancien Testament est le plus universel. Il inclut tous les peuples plus que toute autre littérature du monde antique. C'est le seul écrit de l'Ancien Orient qui contient l'idée de l'unité de la race humaine et l'espérance d'un mouvement commun de l'humanité vers un but commun. Ceci est rendu évident dans les chapitres d'introduction de l'Ancien Testament. À l'endroit précis où l'histoire sacrée commence à se limiter à Israël, les peuples du monde sont à nouveau énumérés. Une grande, on peut dire, plutôt, il y a là, c'est ce que je voudrais dire, il y a là une garantie qui leur est ainsi accordée, il y a là une place persistante dans la révélation divine future. Oui, ils sont assurés de ne pas être oubliés du tout, pas oubliés dans le conseil d'amour de Dieu, et de ne jamais quitter l'horizon de la rédemption. Le verre invisible de l'espérance s'enroule et court à travers les branches sauvages de ce catalogue des peuples attestant à l'avance cette très grande vérité que Dieu a tellement aimé le monde. Et vous connaissez la suite. Chers amis, nous terminons notre étude ici et demain, Dieu voulant, nous aurons l'étude numéro 7 qui concerne la gloire de l'alliance que Yahvé l'Éternel a fait avec Abraham. Pour le moment, si vous le voulez bien, nous allons terminer ensemble par la prière. Prions. Seigneur, te prier, c'est notre devoir et devrait être aussi notre plus douce jouissance, notre bonheur, car en se tournant vers toi, nos âmes s'élèvent vers tout ce qu'il y a de plus pur, de plus saint, de plus puissant pour nous rendre heureux. Faut-il donc que non seulement nous éprouvions tant de froideur pour l'accomplissement de ce devoir, mais que si souvent nous puissions oublier ou négliger de le remplir? Oublions-nous ce qui se rapporte à nos intérêts de cette vie? Sommes-nous négligents aux choses qui nous procurent des richesses ou des plaisirs? Ne savons-nous pas nous en occuper minutieusement, avec une persévérance infatigable? Ne savons-nous pas témoigner notre affection par des manifestations multiples aux êtres qui nous sont chers? Nous devrons penser à eux. Pour le Seigneur seul, notre cœur est glacé. Nous n'avons rien à lui dire, rien à lui demander. La prière n'est souvent pour nous qu'une vaine forme, et trop fréquemment, il nous arrive de ne pas même prendre la peine de fléchir les genoux et d'élever en haut nos âmes. Si nous aimions, il nous serait doux de prier, mais nous ne prions pas parce que nous ne savons pas aimer celui qui a tant de droits à notre amour. Car n'oublions-nous pas que Dieu seul nous restera dans l'éternité et que notre bonheur ou notre malheur dépendra de notre amour pour lui. Quelle preuve aussi de l'endurcissement de nos cœurs, car si nous sentions ce que le Tout-Puissant a fait pour nous en donnant son Fils bien-aimé pour le rachat de nos âmes, pour ton âme, pour mon âme, pourrions-nous ne pas le bénir, ne pas l'adorer, ne pas lui rendre de ferventes actions de grâce pour une si grande miséricorde? Ô Dieu, à cet instant même, nous reconnaissons combien nous sommes coupables de ne pas le prier ou de ne pas te prier mieux. Nous te supplions de nous enseigner à prier et de toucher tellement nos cœurs qu'ils sachent trouver dans la prière leur bonheur et leur joie. Daigne-nous exaucer, Seigneur, au nom du divin Sauveur qui a prié pour nous, et qu'à toi, Jésus-Christ, à lui notre Père et au Saint-Esprit, sans l'assistance duquel nulle prière ne peut s'élever de nos cœurs, soit adoration et gloire. Amen. Amen. Et chers amis, merci de votre intérêt que vous portez à ces études. Et croyez-moi, nous allons ensemble en apprendre encore beaucoup, car après la série sur l'Ancien Testament, nous aurons le développement de tout le Nouveau Testament jusque à l'Apocalypse. À bientôt à nouveau, à demain Dieu voulant. Au revoir mes très chers amis.